Voilà. Seigneur, merci de ta parole que nous voulons ouvrir pour qu'elle puisse parler à nos cœurs et nous faire connaître encore les magnificences de ta volonté, Seigneur, à notre égard. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. On va lire deux passages dans 1 Corinthiens 1:29 et je vais lire dans la version Kuhn, donc paraphrasée, ce qui fait que je serai un peu plus long que ce que vous aurez dans vos Bibles. 1 Corinthiens 1:29 et ensuite après Éphésiens 4:13. 1 Corinthiens 1:29 jusqu'à 31. Ainsi qu'aucune créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu ou se prévaloir de quelque titre devant lui. Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. Si vous vivez en communion avec Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Et en lui, nous sommes sauvés, consacrés à Dieu et libérés du mal. Ainsi se réalise cette parole de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, que ce soit au sujet de ce que le Seigneur a fait, et de ce qu'il lui a donné. Voilà, ce matin nous avons déjà eu un témoignage à la gloire de Dieu, que nous puissions toujours, non pas nous glorifier de nous-mêmes, mais de ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Et le deuxième passage se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, versets 13 à 15. Éphésiens 4, 13 à 15. Le but et que nous soyons tous un par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ, et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude de Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à ces esprits ballottés par les flots et entraînés ça et là par chaque coup de vent, chaque doctrine en vogue, que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à nous entraîner dans les séductions de l'erreur. Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour, et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entretenons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons avec lui et à tous égards jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Amen. Voyez-vous, il y a là une progression qui est évidente, hein. Donc les choses progressent vers une pleine mesure, vers quelque chose qui est parfait, vers quelque chose qui n'existe pas encore. Le sujet de ce matin, j'aurais pu le donner à la fête des mères, mais la fête des mères est un peu tard hein, par rapport à aujourd'hui, donc... Je crois que je voudrais montrer qu'on peut être une femme qui, sans avoir forcément de place dans la société, dans une place d'importance, on peut changer le monde. On peut changer le monde totalement. Et je voudrais effectivement mettre le doigt sur Suzanne Wesley, qui est la mère de John Wesley. Il se trouve que pendant cet été, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de réveil. C'est pourquoi j'ai mis cette frise. On n'a pas encore vu l'ensemble de la frise. Mais c'est moi-même qui ai beaucoup appris en bon, je me suis toujours intéressé, d'une certaine manière, au réveil, mais de manière sporadique, c'est-à-dire pas de manière continue, avec une vision globale des réveils. Et c'est en regardant cette vision globale, eh bien, j'ai compris un certain nombre de choses, dont les deux textes que je viens de lire, qui sont des textes sur la maturité chrétienne. Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir matures dans leur vie chrétienne ? Voilà, c'est ça le sujet. Sujet de devenir mature, c'est-à-dire de passer du stade d'enfant au stade d'adolescent pour terminer au stade adulte. En grec, vous trouvez ça dans les épîtres sur le terme de népios. Vous êtes des enfants, vous pouvez avoir que du lait. Et c'est ce qu'on a normalement quand on commence sa vie chrétienne, mais parfois il y a des chrétiens qui restent jusqu'à la fin de leur vie des enfants. On ne peut supporter que du lait. Ensuite, après, il y a le mot sarkonoi. Sarkonoi, c'est la chair, hein, donc des enfants charnels, des enfants qui. Alors, on retrouve ça dans l'épître de Jean aussi, qui peuvent supporter un peu plus que les enfants, mais qui rechutent, donc qui font des hauts et des bas dans leur vie chrétienne, etc. Et ensuite, après, les télios. Télios, c'est les hommes parfaits. Les hommes et les femmes parfaits. Et c'est de ça qu'il est question. Comment est-ce qu'on peut être parfait ? Parfait, non pas au sens de perfection sans tâche, mais de complet. Et comment être, peut être complet ? Comment est-ce que notre foi peut être complète ? Ce matin, on a parlé de la foi, Hélène en a parlé. Eh bien, comment est-ce que notre foi peut être complète ? Voilà la question. Et j'ai découvert ça quand j'ai regardé les réveils, parce que souvent on se pose la question, pourquoi un réveil ne dure pas ? Pourquoi est-ce qu'il dure quelques années ? Le réveil du Pays de Galles a duré 4 ans, et ensuite après, ça s'est arrêté. D'autres réveils sont plus longs. Il y a beaucoup de réveils depuis la réforme protestante du XVIe siècle, qui a voulu, bien sûr, complètement réformer l'Église catholique, qui d'ailleurs aussi elle n'est pas sur la frise, mais on peut rajouter la réforme de l'Église catholique avec le Concile de Trente, hein, qui aussi s'est réformé, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus les hérésies qu'il y avait à l'époque dans l'Église catholique. Mais si on regarde que la réforme protestante, eh bien on a ici, durant tous ces 4 siècles qui nous précèdent, eh bien un certain nombre d'autres réveils, hein, qui font que l'Église et le chrétien peut devenir mature dans cette compréhension de ces révélations que Dieu donne. Et un de ces revivalistes, hein, on appelle ça des revivalistes qui amènent le réveil, c'est John Wesley, que je ne connaissais pas, hein, et qui en France n'est pas connu, parce que l'Église méthodiste n'existe pratiquement pas. Je crois que là, ils sont en train de demander leur affiliation à la Fédération protestante de France, ils sont en cours, mais il y a très peu d'églises, la plupart sont en Alsace, il y a 4 ou 5 églises, très peu. Donc on ne connaît pas les méthodistes. Et donc c'est John Wesley qui est, John et Charles Wesley, son frère, qui sont à l'origine de ce réveil, qui lui n'a pas duré 4 ans, mais qui a duré 100 ans. Et non seulement il a duré 100 ans, mais il a influencé en particulier les pentecôtistes au début du XXe siècle, ce que je ne savais pas non plus, que tout le pentecôtisme, le baptême de l'esprit, a été défini par John Wesley et celui qui a poursuivi ensuite après au XIXe siècle. Et tout ça pour arriver vers les années 70, où un homme n'est pas là-dessus, mais qui devrait l'être, qui a défini la théologie, qui avait été définie, ou tout au moins enseignée, par John Wesley. Parce que John Wesley a fait quand même 40 000 sermons, hein. J'en suis pas encore là, hein. 40 000 sermons pendant sa vie. Et tout ça à cheval, hein, il se levait à 4 heures du matin, il commençait à 5 heures, et il parcourait l'Angleterre du haut en bas, du bas en haut, jusqu'en Écosse, etc. Et ces 40 000 sermons, quand on les a condensés, en fait, au XXe siècle, il y a un méthodiste qui est le théologien méthodiste qui est connu, Outler, aux États-Unis, qui a pris ces 40 000 sermons, qui a essayé de dégager une théologie, parce qu'il n'était pas théologien, c'est un évangéliste. Qui effectivement a annoncé l'évangile, Mais en fait, derrière cela, il y avait une théologie, mais qu'il n'avait pas écrite. Et au XXe siècle, on a cet homme, Auclair, méthodiste, a décrit quel était le contenu et qui explique pourquoi non seulement ce réveil a duré plus de 100 ans, mais a influencé tout le XIXe siècle par les mouvements de sainteté, perfection, et ensuite après tout le mouvement de Pentecôte qui repose sur cette théologie. Donc pour moi c'était une découverte, et donc celui qui a défini la théologie, parce que dans les années 50, donc dans ces années-là, il a été dit que si les évangéliques, hein, parce qu'en fait le mouvement évangélique repose sur la théologie de Wesley, si les évangéliques donc n'ont pas une théologie, dans la dizaine ou les vingtaines d'années qui viennent, le mouvement évangélique n'existera plus. Et donc Dieu a suscité quelqu'un qui est George Eldon Ladd, qui est un théologien qui a écrit la théologie du Nouveau Testament, et qui en fait tout simplement définit cette théologie de manière appuyée sur les Écritures, la théologie de Wesley. Voilà un petit peu, disons, la grande ligne de ce que le Seigneur m'a révélé dans cette recherche. Et en fait, l'origine du méthodisme, c'est Susan Wesley qui est à l'origine. C'est une femme de pasteur, hein, son mari Samuel Wesley, qui était anglican. Eh bien, elle était donc... elle a eu 19 enfants, hein, rien que ça. Elle en a perdu 9, donc il lui en restait 10 quand même. Et elle passait une heure par jour, une heure et demie par jour, avec chaque enfant, tous les jours. Et vous, elle avait compris sa vocation. Et c'est elle qui est à l'origine de ce qu'on appelle le méthodisme, puisque le mouvement initié par Wesley, c'est le méthodisme, qui est devenu d'ailleurs une église d'État, reconnue comme l'anglicanisme, puisque John Wesley est toujours resté anglican. La seule chose qu'il n'a pas portée, c'est la perruque, parce qu'à l'époque, les anglicans avec une perruque, ils disaient que c'était trop cher et qu'ils préféraient donner ça aux pauvres. Donc il prêchait sans perruque. Mais sinon, il était resté anglican jusqu'à la fin de ses jours. Juste à la fin, eh bien, le méthodisme a été créé. Je voudrais juste vous dire un petit peu qui était cette femme, Suzanne, qui était une femme extraordinaire, mais qui avait compris sa vocation de mère. Et grâce à cette compréhension de mère, et je voudrais encourager les mères aujourd'hui, hein, qui n'ont pas travaillé à l'extérieur, souvent on se sent un peu dévalorisé, hein, eh bien non, c'est le plus beau métier qui puisse exister, celui de mère, celui de transmettre à ses enfants, eh bien, le sens de la vie. Suzanne Wesley, appelée d'ailleurs officiellement mère du méthodisme, vient de ce qu'elle n'a jamais prêché, ni publié aucun livre. Mais elle était la mère de John et de Charles Wesley, les fondateurs donc de ce réveil religieux, qui est plus qu'un réveil, qui est une réformation. La première réformation date de Luther, Calvin, etc., 16e siècle, qu'on va fêter en 2017, donc attendez-vous à beaucoup d'événements en 2017 sur la télé, etc. Ça sera très médiatisé et ce sera intéressant de savoir un certain nombre de choses pour que vous puissiez répondre aux contemporains qui vous poseront des questions. Et donc la deuxième réforme, c'est celle des méthodistes, Charles et John Wesley à Wakefield. Donc cette femme, Suzanne, a été à l'origine de ce mouvement. Pourquoi ? Parce qu'elle a donné une éducation exceptionnelle à ses enfants. Aujourd'hui, 50 millions de méthodistes dans le monde sont au bénéfice de ce réveil. Elle-même, dernière fille d'une famille de 25 enfants, et vous, elle est d'origine aussi d'une grande famille, 25 enfants. Elle a eu des idées très arrêtées sur l'éducation de ses enfants. Elle était sur des principes. Et c'est ces principes et cette méthode qui lui a permis de préparer John et Charles pour ce ministère fructueux. Premièrement, il disait que les enfants seront enseignés à prier dès qu'ils pourront parler. Les enfants ne recevront pas ce qu'ils demandent en criant, mais seulement quand ils demanderont poliment. Pour prévenir le mensonge, les enfants ne seront pas punis pour ce qu'ils avouent et dont ils se repentent. Les enfants ne seront pas punis deux fois pour la même faute. Tout bon comportement sera félicité et récompensé. On fera l'éloge de toute tentative de faire plaisir, même si elle est mal exécutée. Les droits de propriété seront préservés dans les moindres détails. Et les enfants seront enseignés à craindre le Seigneur. 18e siècle. Il n'y avait pas de psychologue à l'époque, il n'y avait pas Freud, pas Jung. Vous voyez, c'est des principes qui sont dans la parole de Dieu. Quand on les cherche, on les trouve. On remarque que ces principes étaient libéraux pour l'époque et surtout valorisaient les comportements positifs. Pas d'école avant 5 ans, mais à partir de 5 ans, 6 heures de leçons par jour, y compris pour les filles, ce qui n'était pas courant au XVIIe siècle. Parce qu'elle est née en 1669, au XVIIe siècle, Suzanne. Le lever était à 5 heures du matin. Précision, c'est pas le soir, 5 heures du matin. Et toute la journée était méthodiquement organisée. Ce n'est pas un hasard si plus tard l'université, la pratique de piété de Charles et de John ont été surnommées méthodistes. Car elle portait en germe dans l'éducation qu'ils avaient reçue. Suzanne avait pour principe de passer une heure, tête à tête avec chacun de ses enfants. Par contre, elle passait 2h30 à méditer la Bible par jour. Plus tard, elle entretint avec eux une correspondance nourrie. Ces principes lui ont permis d'élever sa famille nombreuse dans des conditions financières très précaires. Son presbytère, parce qu'il avait un presbytère, il a été brûlé deux fois, avec 10 enfants en vie, peut-être d'autres encore. Eh bien, c'est pas évident. Les enfants, donc, quand ce presbytère a brûlé deux fois, les enfants ont été répartis dans des familles d'accueil en attendant sa reconstruction. D'autre part, Samuel, le père, un homme très strict et austère, fut plusieurs fois éloigné du foyer, deux fois en prison pour dette, mais aussi en raison de l'incompatibilité avec l'humeur. Il était intransigeant, mais Suzanne était peut-être aussi intransigeant avec lui. C'était pas commode. Et leur grosse dispute a concerné son refus de dire amen à la prière de son mari pour le roi, parce que lui, il voulait prier pour le roi. Apparemment, il n'était pas royaliste. Voilà. Donc, vous voyez, c'était pas parfait dans leur couple. Mais voilà ce que ça a donné quand même. Pour pallier le manque de diversité de sujets abordés au culte le dimanche matin, par un remplaçant de son mari, alors dépêché à Londres, pendant 2 ans, pour défendre un ami accusé d'hérésie, Suzanne organisait le dimanche soir des cultes familiaux. Puisque le matin, le pasteur, visiblement, ne prêchait pas tout à fait ce qu'il fallait. Et elle lisait les sermons de son mari et des psaumes. Et peu à peu, des voisins demandèrent à se joindre au groupe qui finit par atteindre 200 personnes, dimanche soir. Elle n'a jamais rien publié de son vivant, mais elle écrivit beaucoup de lettres et pour sa piété personnelle, des commentaires et des méditations. Beaucoup ont été perdus dans les incendies de sa maison. Voilà ce qu'elle écrivait, qu'elle disait régulièrement à ses enfants. Tout ce qui affaiblit ta raison, affecte la sensibilité de ta conscience, obscurcit la vision de Dieu, t'enlève le goût des choses spirituelles, tout ce qui augmente l'autorité du corps sur l'esprit est un péché pour toi, même si elle semble innocente en elle-même. Voyez-vous le type d'enseignement fouillé pour les enfants, qui leur donne une colonne vertébrale pour leur vie. Voilà un peu le décor planté de John Wesley, qui a été élevé par Suzanne dans une très grande rigueur méthodologique. John Wesley, donc, avec son frère Charles était plutôt le poète, lui composait des poèmes, etc. John n'était pas insensible aux poésies, mais il en a fait quelques-uns. Mais voilà, ils étaient des deux frères qui travaillaient ensemble dans la même cause pour l'Évangile dans leur génération. Et ils travaillaient avec Whitfield. Whitfield, c'était aussi un ami parce qu'ils avaient créé à Oxford, parce que John Wesley est un homme très très cultivé. En plus du latin, du grec et de l'hébreu qu'il connaissait parfaitement, il avait appris, en plus de l'anglais qu'il connaissait très bien à Oxford, il avait appris le français, le portugais, l'espagnol, enfin 5 langues autrement qu'il savait discuter avec les gens. Donc c'est pas quelqu'un qui ne connaissait rien, un intellectuel un peu comme Calvin ou même Paul. Mais il était très très simple et très humble. Donc ce réveil, comme je le disais, a duré une centaine d'années, entre le début 1669 jusqu'à la Révolution française, vous voyez, 1791, John Wesley est mort en 1791. Et ce réveil a duré après sa mort, vous voyez, c'est pas arrêté, parce qu'il était basé sur de solides fondements. Ce réveil a impacté tous les autres réveils qui ont suivi à cause de la profondeur de son impact dans la méthode chrétienne qu'il véhicule. Et cette méthode, donc, comme je le disais, a été découverte au XXe siècle, plus de 2 siècles après la mort de Wesley, a été découverte par Albert Outler, qui, aux États-Unis, a fait cette étude de ses 40 000 sermons. Je ne sais pas s'il a lu tous les 40 000, mais de ce que John prêchait dans toutes ses campagnes d'évangélisation. Et il a découvert que ça formait un quadrilatère. Quadrilatère, c'est 4 côtés. Voilà. Et donc, il l'a appelé le quadrilatère wesleyen. Et c'est ce que je voudrais vous faire passer comme message. Si vous pouvez baser votre vie personnelle, chrétienne, sur ce quadrilatère, eh bien vous pouvez arriver à la même chose que John Wesley, que ce réveil, devenir mature en Christ. Et que votre vie puisse impacter ceux qui vous entourent, et particulièrement nos contemporains. Vous verrez pourquoi. Ce quadrilatère wesleyen définit la foi. Alors très souvent, la foi, on se dit, mais c'est quoi la foi? Bien sûr, la foi, c'est de croire en Dieu. C'est d'avoir confiance en lui. Mais comment est-ce que cette confiance se traduit? Eh bien, le quadrilatère wesleyen dit que l'essentiel de la foi, donc la quintessence, si vous réduisez tout et vous essayez de faire le plus petit possible, l'essentiel de la foi, c'est la révélation par les Écritures. Ça vient de la révélation des Écritures. Donc, par révélation, il faut bien noter que c'est la révélation des Écritures. Les Écritures, elles sont là. Vous avez tous des Bibles. Mais il faut avoir la révélation de ce qui est contenu dedans. De toute façon, le Seigneur me donne une révélation. Tiens, vous avez tous des révélations. Et tant qu'on n'a pas la révélation de ce qui est écrit, ce n'est pas la foi. C'est une connaissance avec laquelle vous pouvez faire un certain nombre de choses. Vous pouvez la triturer dans tous les sens. Vous pouvez la discuter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la révélation, c'est quelque chose qui, d'un seul coup, on saisit comme une vérité. Amen. Ça vous dit? Vous voulez des révélations? Bien, cherchez les révélations, mais vérifiez qu'elles sont basées sur l'Écriture. Donc l'essentiel de la foi est révélé dans les Écritures. Ensuite, l'autre versant du quadrilatère, c'est la tradition. Tradition. L'essentiel de la foi est révélé par les Écritures, elle est éclairée par la tradition. L'erreur du catholicisme, entre autres, c'est que la tradition est du même niveau d'autorité que les Écritures dans le catholicisme. C'est-à-dire qu'une tradition qui, à un moment donné, Voilà, par exemple, les apparitions de la Vierge Marie, où on dit Marie est l'Immaculée Conception, etc. C'est pas écrit dans les Écritures, mais par tradition, à un moment donné, on accepte, et donc le pape, eh bien, il est dit une bulle papale, et une vérité, une doctrine devient l'équivalent de l'Écriture. Et il faut la croire au même titre que l'Écriture. Ça, c'est dans le catholicisme. Là, on parle d'éclairer. On ne parle pas d'avoir la même autorité que les Écritures. Mais pour la foi, elle peut être éclairée par la tradition. Vous prenez John Wesley. John Wesley était anglican. Était ordonné comme pasteur anglican. Et il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Seule chose qu'il ne portait pas la perruque, parce que voilà, il ne voulait pas acheter de perruque, c'était trop cher. Je crois qu'à la fin, quand il est mort, il avait, je crois, 30 livres voilà, d'avance. Et il vivait vraiment par la foi, il comptait sur le Seigneur. Mais il n'a jamais été rejeté par son courant anglican. Jamais. Il a eu des quolibets, il a eu beaucoup de choses, parce que forcément, dans toute dénomination telle que les anglicans, il y a eu beaucoup de difficultés, mais il est toujours resté anglican. Il n'a pas écrit de confession de foi. Voyez-vous ? La confession de foi, il y a beaucoup de confessions de foi. Hein, il y a la confession de foi luthérienne, la confession de foi calviniste, il y a la confession de foi baptiste, la confession de foi, tout un tas de confessions de foi. Il n'a jamais écrit de confession de foi. Les 31 articles de la confession de foi anglicane, il l'a complètement gardé. Sauf que quand le méthodisme a été créé aux États-Unis, parce qu'il a créé en Angleterre et aux États-Unis, eh bien, il a juste enlevé 5 ou 6 articles sur l'enfer, sur le machin, enfin des trucs un peu zarbi, à mon avis, et donc il restait 25 articles. Donc il a juste épuré un petit peu la confession de foi. Donc la confession de foi, elle dit non. Elle est juste, justification par la foi, sola scriptura, les écritures seules, c'est la base, on ne change rien. Donc, le deuxième volet de ce cours d'égataire, c'est la foi est éclairée par la tradition. Le troisième, segment, c'est l'expérience. Et là, c'est vivifié par l'expérience. L'expérience est importante. Lui-même, John Wesley, en tant que pasteur anglican, il a une expérience de baptême de l'esprit sur le bateau qu'il ramenait des États-Unis en Angleterre en rencontrant un Morave. Un Morave, c'était des gens qui étaient en Moravie, Tchécoslovaquie. Il y a plusieurs provinces, dont une province, la Moravie, la Moldavie, etc. Je crois qu'il y a un Tintin qui était en Moldavie, je ne sais plus. Voilà. Donc la Moravie, c'est un endroit, vous voyez, qui est un peu à l'est d'Allemagne. Et là, les Moraves ont vraiment cherché d'expérience avec le Seigneur, comme beaucoup dans le monde. Mais là, ça a pris forme, où tout un peuple est rentré dans un réveil spirituel, qui d'ailleurs, je crois, n'est pas là-dessus non plus. C'est en 1600, avec Spener, si Spener, je crois, est là-haut. C'est un Alsacien de Ribeauvillé, qui était luthérien et qui n'en pouvait plus du formalisme luthérien. Parce que le formalisme luthérien, au bout de 100 ans, vous voyez, il y avait un réveil. Mais ce réveil n'a pas duré, parce que les gens sont tombés dans le formalisme, parce qu'il manquait justement la piété. Et lui, donc, cherchait à expérimenter la grâce du Seigneur, à la rencontrer, à une rencontre personnelle. Et c'est ce qu'on appelle le piétisme. Donc ce piétisme, eh bien, John Wesley a été touché par un Morave qui lui a dit « Mais tu ne connais pas le Seigneur personnellement, il faut que tu le rencontres. » Et il a eu cette expérience à la Pentecôte. Et son frère aussi, Charles, à la Pentecôte, le même jour, ils ont eu cette expérience extraordinaire de la présence de Dieu dans sa vie. Et donc, il est bien placé pour dire que l'expérience est un élément vivifiant de la foi. Et il faut que nous ayons des expériences avec Dieu, hein, des expériences puissantes, moins puissantes, mais tout le temps renouvelées dans la présence du Seigneur. Amen. Donc ça, ça contribue à la foi. Et le dernier élément de ce quadrilatère, eh bien, c'est la raison. Voilà. Alors, ça choque un Français, et peut-être un évangélique français, que la raison est un élément de la foi. Alors, le verbe qui est utilisé pour la raison, c'est « confirme ». Confirmé par la raison. C'est-à-dire la foi est confirmée par la raison. La raison, en quelque sorte l'intelligence de l'homme, hein, c'est quelque chose de particulier dans la création, puisque c'est l'intelligence de l'homme qui fait la grande différence avec les animaux et avec les minéraux, hein, qui ont encore moins d'intelligence. Donc l'homme a été créé intelligent. Est-ce que cette intelligence, il faut la mettre au vestiaire quand on devient chrétien? Oui, mais ce n'est pas ce qui est prêché dans beaucoup d'églises. Tout au moins, si ce n'est pas prêché directement, ça l'est indirectement. La raison participe à la foi. Elle confirme la foi. C.S. Lewis, ceux qui ont vu Narnia, etc., c'est un homme qui est venu à Dieu par la raison. C'était un homme très rationnel, et par la raison, il a trouvé Dieu. Et ce n'est pas le seul. Pardon ? Parce qu'il était honnête, oui, bien sûr. Il faut être honnête. En France, on a déifié la raison. C'est autre chose. Déifier la raison, ça veut dire que c'est la raison qui me fait connaître les choses qui existent. Alors, là, aujourd'hui, je n'ai pas rentré dans le détail de ce quadrilatère, mais ça, c'est la base du réveil méthodiste. C'est la base de tous les mouvements de réveil. Et c'est la base de la théologie de George Ladd qui l'explique de manière théologique. Ce qui n'a pas été le cas de Wesley. Wesley l'a prêché. Par exemple, il était toujours basé sur les Écritures. Les anglicans, réforme protestante, sola scriptura. Donc ici, c'était un point de départ. La tradition, il ne l'a pas rejetée, il est resté anglican et il a reconnu l'importance de ce que les pères et les mères qui précèdent ont vu, et ne serait-ce que par Suzanne, sa mère, il savait très bien que la tradition qu'il recevait d'elle l'aiderait à fortifier sa foi. L'expérience, il l'a eue avec les Moraves. L'expérience de piété, de rencontre personnelle avec Dieu, il l'a eue avec les Moraves, 1738. Donc c'est en 1738, avec les Moraves, qu'il a pu expérimenter et sa foi a été vivifiée. À partir de là, toutes les choses se sont démultipliées, décuplées. C'est aussi pourquoi ce quadrilatère et cette théologie a influencé les pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes, c'est la suite, hein, puisque c'est dans ce sens-là, c'est le mouvement de l'histoire, hein, où ce quadrilatère, à chaque fois, il se déplace, hein, de génération en génération. Hein. Si vous restez dans la tradition qui est la tradition évangélique, eh bien, vous pouvez bénéficier de cette tradition. Ça vous évite de découvrir que l'eau chaude, ça existe. Ça avait déjà existé avant vous. Et il y a un dicton qui dit « Celui qui ignore l'histoire, il est condamné à la revivre. » Donc, accepter l'histoire, ça vous permet de gagner du temps et de monter une marche et d'aller plus haut grâce à ce qui vous est transmis. Hein. Transmission, c'est la même racine que tradition. On transmet des choses et on va plus loin. Et donc, par contre, l'expérience est toujours en avant et il faut continuer l'expérience. Donc ici, C'est la direction de l'histoire, hein, l'histoire de la rédemption. Hein. Ici, c'est la dimension de la transcendance. C'est-à-dire que Dieu est au-dessus. Hein. Dieu est au-dessus de tout ça. Le sens que nous donnons, c'est que Dieu, c'est le tout autre, C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de la création, mais il est là, et nous sommes influencés par sa présence. Et donc les Écritures que Dieu a suscitées nous mettent en contact avec la pensée de Dieu. C'est pour ça que les Écritures sont importantes, parce qu'elles viennent te révéler. Et l'apôtre Pierre dira qu'il n'y a pas un mot qui n'a pas été écrit sans qu'il soit révélé, sans qu'il soit inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Donc ici, quand on a des révélations, et vous voyez, dans ce domaine-là, c'est l'invisible, et dans ce domaine-là, c'est le visible. Là, ça nous permet de ne pas être zarbi en tant que chrétien. On a les pieds sur terre, et on sait de quoi on parle. Vous voyez, Suzanne Wesley avait les pieds sur terre. Elle se levait à 4h du matin, elle commençait à prier 2h30, et ensuite après, elle avait tout son programme méthodique qu'elle a transmis à John, qu'il a commencé à Oxford, parce qu'à Oxford, avec Charles et Whitfield, ils avaient créé le Holy Club à Oxford, et ce groupe, Holy Club, a donné naissance aux méthodistes, puisqu'ils les ont appelés méthodistes, c'est ceux qui sont méthodiques. Donc ici, sur la Terre, vous voyez, ce sont les réalités visibles. Et la raison a donné lieu à la science. Raison, la science. Mais celui qui est la raison. Et là, après, on va voir que au XIXe siècle, donc il est marqué 1800, parce que c'est le début du siècle, au XIXe siècle, on a découvert, enfin, MacGarvey, qui a donné lieu à Torrey, enfin, la lignée, c'est Garvey, Simpson, Torrey, qui a d'ailleurs fait un gros travail en Australie, dans les îles britanniques, etc. Il a écrit l'harmonie des évangiles. C'est-à-dire l'évangile quadruple, fourfold gospel. L'évangile quadruple en 1904. Et cet évangile quadruple, ben c'est ça, c'est l'évangile. C'est les symboles qu'on a là-haut, qui viennent de là, qui traduisent la foi qui est centrée sur Christ. Si vous voulez, au centre, vous avez Christ qui a incarné cette foi, qui l'a vécu, qui l'a modélisé, qui nous donne un modèle. Et ça, c'est un modèle. Si vous prenez ça comme modèle, vous pouvez devenir parfait. Vous pouvez devenir complet dans votre foi. Christ a incarné cela. L'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean et l'évangile de Matthieu. Les quatre évangiles présentent une manière que Christ a manifesté sa foi. Et ça, c'est au XIXe siècle, donc c'est venu sur le devant de la scène avec cette somme théologique qui a défini l'évangile quadruple, qui ensuite après a été repris par Aimé Semple, qui en 1920 a créé ses logos pour Foursquare. Il y a tout un sens quand on voit comment Dieu conduit les choses. Il s'est passé quelque chose de particulier dans l'histoire, puisque là on est dans l'histoire, il s'est passé quelque chose de particulier au XXe siècle. Au XXe siècle, après la guerre en 1945, on a découvert par hasard, dans des grottes en Égypte, des jars remplis d'évangiles. Mais c'était des évangiles qui n'étaient pas acceptés par les évangélistes de l'époque, par Irénée de Lyon en particulier, qui a pris ces quatre évangiles pour les faire entrer dans les Écritures. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais on a découvert d'autres évangiles. Il y a une vingtaine d'évangiles qui est écrit, l'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, l'évangile de je ne sais pas quoi, etc. Voilà. Et ça, on les a découverts dans des grottes en 1945. En 1947, deux ans après, on a découvert d'autres grottes, pareil, un laboureur, un jeune garçon qui est rentré dans un trou et puis qui a découvert une grotte, on aime bien les grottes, et a découvert d'autres jars, qui sont les grottes de Qumran en Israël. Et les grottes de Qumran ont montré les plus vieux papyrus qu'on a rencontrés. Et on a découvert, par exemple, à Jérusalem, dans le musée, ils ont mis les morceaux en place, parce que c'était quand même un petit peu morcelé, tout ce qu'il y avait dans les jarres. Tout Ésaïe, qui était pratiquement tout Ésaïe, qui est presque mot pour mot le texte qu'on a aujourd'hui. D'une part, ça prouve que l'écriture n'a pas varié, et que ce qui était écrit déjà avant Jésus-Christ nous est parvenu, donc la validité des écritures dans leur transmission. Il y avait une grande souhait de transmettre les écritures. Et on a pu comparer, effectivement, ces écrits, en particulier de ces évangiles qu'on appelle apocryphes, qui ne sont pas rentrés dans les écritures, on a pu les comparer par rapport aux enseignements qui étaient des enseignements qui ont été les faux docteurs qui sont mentionnés par l'apôtre Jean, par l'apôtre Paul beaucoup, par Pierre aussi, par tous les apôtres du premier siècle. Ils ont dit attention, attention aux faux docteurs dans les églises. Et les faux docteurs dans les églises vous amènent dans des pistes qui ne sont pas celui-là. Ce n'est pas la révélation des Écritures, la tradition, l'expérience et la raison. Ils vous emmènent ailleurs. Et c'est l'intérêt de ce quadrilatère, c'est de voir où ils vous emmènent. Irénée, à l'époque, il avait dit attention, attention. Et dans toute l'Écriture, dans le Nouveau Testament, on voit cette mise en garde. Et George Ladd, en 1974, a écrit cette théologie, et je l'ai encore relu là cet été sur la plage, où effectivement il utilise ces connaissances qui sont maintenant avérées, parce qu'avant elles étaient secrètes, elles sont avérées, et qui montrent combien le langage utilisé, en particulier le langage de Jean qui est ici, le langage de Jean est un langage différent des trois autres évangélistes. Les évangélistes Marc, Matthieu et Luc utilisent un langage populaire, les paraboles de Jésus, etc. Et Jean, de manière étonnante, d'ailleurs on l'a accusé, enfin, des commentateurs bibliques depuis deux siècles l'accusent d'avoir utilisé le langage de la philosophie grecque. Et en fait, effectivement, il utilise un langage différent des autres évangélistes. Et on pense que Jésus utilisait ce langage avec les intimes, Jean, Jacques, Pierre, mais aussi avec les Sadducéens et les pharisiens. Parce que c'était un langage, effectivement, grec, qui exprimait des choses différentes. Par exemple, il utilise le ciel et la terre. Ici, on ne les utilise pas. Dans le prologue, il dit que c'est le Logos. Et le Logos, qui est Jésus, qui est Christ, qui est la raison, il est venu habiter. Voyez-vous, l'intelligence en elle-même, qui est en Dieu, elle est venue habiter parmi les hommes. Donc vous voyez que la raison est absolument capitale. Jésus était la raison incarnée. Et en cela, il peut être un modèle pour nous. Et quand vous voyez Suzanne Wesley, comment elle a élevé ses enfants et comment elle a réussi à avoir ce résultat d'impacter le mouvement évangélique et complet jusqu'à nos jours, eh bien, c'est qu'elle a utilisé la raison. Et elle le dit à ses enfants. Elle insiste, la première chose pour discerner un péché, c'est d'utiliser la raison. La raison, bien sûr, doit confirmer la foi. Donc, elle doit être servante des Écritures. Tout ce qui est à l'extérieur de ce quadrilatère, puisque tout est centré sur Jésus et sur la foi, tout ce qui est à l'extérieur, c'est l'homme autonome. Ici, c'est l'homme dépendant par la foi, et ici, c'est l'homme autonome. Et vous pouvez expliquer à partir de cette compréhension, de ce modèle de vie, si vous êtes centré par ces trois éléments, eh bien, vous pouvez entrer dans la perfection chrétienne, dans une fois plus perfection au sens complet. Vivre une vie chrétienne qui soit cohérente et qui puisse impacter la société dans laquelle vous êtes, et en particulier française. Si le chrétien français évangélique supprime cette raison, eh bien, il peut impacter, bien sûr, le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, mais il ne peut pas impacter ses contemporains. Allô ? Vous m'entendez ? Alors, cet exercice est très difficile, très très difficile. Les méthodistes, les premiers, sont tombés dans le panneau. Les méthodistes, après Wesley, 19e siècle, comme Wesley a défini et introduit la notion de raison, cette notion de raison, ça touche la sanctification. Ici, ça touche la justification. Nous sommes justifiés par la foi, parce que les Écritures nous révèlent que c'est par la foi que nous sommes justes devant Dieu, et pas par les œuvres. Ça, c'est la justification. La sanctification, elle est progressive. Mais néanmoins, elle repose sur des décisions que nous prenons, sur des arrêtés. Vous voyez, Suzanne a dit à ses enfants, voilà, pour le péché discerné, etc. Voilà. C'est basé sur l'intelligence, sur la réflexion. Et nous avons besoin de réflexion pour être cohérents avec nous-mêmes. D'une part, pour transmettre la foi, il faut de la raison, il faut de l'intelligence, il faut structurer notre façon de parler, il faut utiliser intelligemment des exemples pour qu'ils soient cohérents avec ce que vous dites, etc. Ouais. Sinon, on vous prend pour des fous. Okay. Or, le chrétien est tout, est supposé être tout sauf un fou. Hein, fou pour le Seigneur, mais pas fou au sens de déraison. Or, très souvent, les chrétiens évangéliques se comportent comme déraisonnables. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas impacter comme ils le devraient leurs contemporains. La raison, qui est le logos, effectivement, Jean l'a utilisé pour contrer les fausses doctrines comme le gnosticisme. Et la grosse différence entre le vrai christianisme et le faux christianisme, c'est que le vrai christianisme s'incarne dans la vie de tous les jours. C'est incarné. Le faux christianisme, il est désincarné. Les gnostiques disent tout ce qui est matériel, il n'y a rien de bon. Donc Jésus, il est bienvenu, mais il est venu en esprit. Et avant la croix, il est reparti en esprit. C'est le rédempteur qui vient, qui monte, mais la croix, non. Ça, c'est aberrant. C'est aberrant. La croix ne peut rien venir. Tout simplement parce que, effectivement, la raison humaine ne peut pas comprendre la croix. Donc, on est à l'extérieur. La croix, c'est au centre. Et la croix a besoin des Écritures, la révélation des Écritures et de la raison. Il faut les deux, parce que ça, c'est créatif. Et là, c'est un autre contributeur à cette compréhension, c'est Christian Schwartz, qui vous explique les deux pôles. Dans la vie, il y a toujours des pôles. Des pôles création. Comme je l'avais dit l'autre jour, vous prenez une batterie, vous avez pôle plus, pôle moins. Si vous avez une source d'eau, vous avez une source avec un potentiel et qui fait marcher une turbine hydroélectrique, etc. Dans la vie, Dieu a créé des pôles. Et voilà ces quatre pôles qui sont là, qui ont besoin d'exister entre la révélation des Écritures et la raison, entre l'expérience et la tradition. Et ces pôles, quand ils existent, quand ils n'existent pas, ils ne peuvent pas créer de vie. Mais quand ils existent, ils peuvent créer la vie. Bon, là, je ne peux pas vous expliquer ça, il me faut 2 jours, c'est ce que j'ai fait à l'université d'été. Donc ceux qui veulent savoir plus, la prochaine université sera au mois de janvier, je rentrerai dans le détail du fonctionnement de ces pôles. Comment ils fonctionnent? Comment ce modèle est dynamique? Voyez-vous, il n'est pas statique, il est dynamique. Christ était un être dynamique. Allô ? Et il veut que le chrétien soit dynamique, qu'il ne soit pas statique. Mais quand vous prenez un pôle ou l'autre, vous devenez statique. Regardez. Ici, vous prenez révélation. Bon, le surnaturel, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent des révélations dans le surnaturel. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent mystiques. Okay ? Ça, c'est le mysticisme. Il y en a qui restent sur la tradition. Ben, ils deviennent traditionnalistes, institutionnalistes, basés sur des faux pas, etc., une sorte de légalisme, etc. Donc ici, vous êtes aussi en dehors du système. Et pouvez plus être crédible. Ici, l'expérience, effectivement, si vous êtes que dans l'expérience et que vous ne le validez pas par l'écriture, eh bien vous expérimentez des choses, mais vous ne savez pas du tout si c'est à côté de la plaque. Et là aussi, on a une sorte de mystisme, et surtout de l'eschatologie, c'est-à-dire une vision de la fin. Alors, les évangéliques, comme d'autres, disent, ah oui, dans tant d'années, il y aura la fin du monde, tant d'années. Voilà, c'est lié à cette expérience. Ils ne sont pas centrés sur ces quatre éléments. Et la raison, n'en parlons pas, on est les champions de la raison, du rationalisme, de Descartes, je pense, donc je suis. Effectivement, là, on a besoin de personnes pour nous apprendre ce que c'est que d'être dans ce pôle uniquement. Donc il faut les quatre, et il faut un équilibre. Et cet équilibre, vous savez, comme sur une corde, on n'est jamais droit. C'est parce qu'on est une fois à droite, une fois à gauche. Ce qu'il faut, c'est se ramener au centre. C'est pas se laisser déporter. Et par exemple, le méthodisme, où John Wesley, dans ses 40 000 sermons, a prêché ça, au 19e siècle, après sa mort, ils sont partis dans le rationalisme. Parce que le 19e siècle était un siècle de rationalisme, et les méthodistes sont devenus la high society aux États-Unis, parce qu'ils étaient aussi nombreux que les baptistes, à l'époque du 19e siècle. Ils étaient une grande force évangélique. Mais ils sont tombés, aujourd'hui d'ailleurs, sur les méthodistes, sur les millions de méthodistes, il n'y a que 1% qui vraiment vivent ça. C'est-à-dire, l'enseignement est bon, mais le vivre, c'est très difficile. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il faut toute une communauté pour nous aider à vivre cet équilibre, qui est un équilibre, je dirais, dynamique, dans tous les sens du terme. Cette méthode est décrite par les évangiles. Et c'est George Ladd qui le définit dans sa théologie, qui est uniquement basée sur les Écritures et sur l'analyse des textes qui parlent d'eux-mêmes pour expliquer cela. L'essentiel de la foi, c'est comme un trépied, c'est basé sur la révélation des Écritures. Il y a une contribution de ces trois-là qui vont dans le sens de cette révélation des Écritures. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire de cela ? Eh bien, aujourd'hui la foi évangélique est en grand danger à cause des assauts du Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est une pieuvre tentaculaire dans tous les domaines qui cherche à vous pousser à l'expérience, expérimenter. Ici, c'est l'individualisme. Ici, c'est l'institutionnalisme. L'institutionnalisme, elle a sauté en 68. Donc maintenant, tout le monde va vers l'expérience. Chacun son expérience, chacun sa théologie, chacun son truc, etc. Donc ici, le Nouvel Âge est roi et les chrétiens évangéliques vont là-dedans. Parce que c'est le sens de l'histoire. Mais si nous prenons conscience que Christ et l'essentiel de la foi est là, et nous devons accepter que la tradition peut nous apporter des choses, que ce que nos pères ou nos mères ont trouvé de bon, eh bien on le prend et on l'intègre à sa vie. Allô ? Vous m'entendez ? Deuxième chose, le chrétien évangélique doit s'appuyer sur une foi qui est tétramorphe, qui a quatre dimensions, qui est en fait l'être vivant qu'Ézéchiel a vu dans le premier chapitre d'Ézéchiel. Vous voyez qu'il rentre dans cette vision où le tétramorphe, cet être vivant, soutient la gloire de Dieu, le trône de Dieu. Et c'est ce que nous sommes supposés être, c'est ce que l'Église doit être, parce que Jésus a vécu et est cet être vivant. Mais il veut que nous le soyons avec lui. Et ça, c'est aussi ce que le Seigneur voudrait qu'on soit, c'est-à-dire basé sur la connaissance des Écritures, avoir une raison saine, inductive des textes, pas déductive, avoir une tradition évangélique de la foi et de l'Église, et avoir une expérience personnelle de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Ensuite, la connaissance de la théologie du Nouveau Testament et le langage des évangiles est important. Bon, l'évangile de Jean, vous ne pouvez pas du tout le lire comme les autres évangiles. Parce que justement, il a été écrit de manière intentionnelle pour sortir de ce marasme du rationalisme. Et les Français, chrétiens évangéliques, devraient justement bien lire. Peut-être que je vais faire une étude là-dessus, travailler là-dessus. Enfin, je ne l'ai pas travaillé. Je sais que c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Mais il faudrait que je consacre mon temps à étudier un peu l'évangile de Jean pour que vous puissiez vous en imprégner dans votre capacité d'évangéliser. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, à la prochaine université, je détaillerai plus ce modèle. Je dirais une chose, alors ça ne vient pas d'André Malraux, ça vient de moi. André Malraux a dit, c'était un ministre de la Culture au temps de De Gaulle, il dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était très côté ésotérique, André Malraux, avec beaucoup de personnages. Ils avaient des anges qui le guidaient, etc. Eh bien, c'est ce qui se passe. Depuis 1975, par là, eh bien, le nouvel âge fait que il donne goût aux gens, y compris aux chrétiens, de chercher le spirituel. Mais nous, nous voulons un spirituel qui soit confirmé par les Écritures. C'est pour ça que l'expérience, il faut toujours ramener aux Écritures pour rester dans ce cadre-là. Mais le 21e siècle sera spirituel. Et il est spirituel. Et c'est pour ça que les gens cherchent du sens. Soyez ceux qui donnent du sens. En étant effectivement toujours guidés par ce modèle. Mais aujourd'hui, le 21e siècle cherche du sens. Et le sens spirituel, c'est celui qui donne le nouvel âge. Et moi, je dirais que l'Église du XXIe siècle sera méthodique ou elle ne sera pas, en me basant là-dessus. Si nous ne développons pas des méthodes, une rigueur, une cohérence dans notre vie, appuyée sur ces éléments que Dieu a révélés à son serviteur et qui nous a été transmis depuis les âges et confirmé par l'Écriture, eh bien, nous risquons d'être emportés par le fleuve de cette nouvelle vague qui est en train d'être sur le monde entier, et en particulier sur les évangéliques. Parce que le plus grand danger, ça vient de l'intérieur de l'Église, pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur, parce qu'on ne se méfie pas de ce qui vient de l'intérieur. L'Église a toujours été détruite de l'intérieur. C'est la cinquième colonne qui est la plus grave. Et le gouvernement, enfin, quand il y avait, je crois, les nazis en Espagne, donc j'ai pas peur de toutes les colonnes qui viennent, mais j'ai une colonne, c'est celle qui va gagner, la cinquième colonne. C'est celle qui vient de l'intérieur, qui détruit l'intérieur, le gouvernement de l'intérieur. Et donc, nous, soyons eh bien, de ceux qui cherchent cette... Et je vais terminer par relire ce que j'ai lu au début, en Éphésiens 4. Le but, dira Paul, c'est que nous soyons tous un par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est le Fils de Dieu. Une parfaite connaissance de ce qu'il est. Que nous devenions majeurs, mûrs, matures, en atteignant une virile maturité. Et que notre personnalité atteigne son plein épanouissement selon le modèle de Christ. Le modèle de Christ. Et que tous ensemble, voyez-vous, on est dans une démarche de communautaire, de tradition, tous ensemble, puisqu'il n'y a qu'un seul corps, eh bien, nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude de Christ. Ça, c'est la plénitude de Christ. Et c'est ce à quoi le Seigneur veut nous amener. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta sagesse qui ne monte pas, Seigneur, dans nos cœurs naturellement, mais qui vient de toi et qui nous avons besoin d'apprendre. Merci pour, Seigneur, ces hommes, ces femmes que tu as envoyées, comme Suzanne, John, Charles, Whitfield et tous les autres qui ont établi, Seigneur, cette pérennité évangélique de la foi et qui nous est maintenant confirmée par les Écritures de manière magistrale. Seigneur, que nous puissions vivre sur ces choses avec confiance et avec autorité. Seigneur, nous savons que dans ce modèle, nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce qu'il n'intègre pas le modèle de la peur de l'ennemi. Seigneur, l'ennemi est terrassé. Lorsque nous vivons dans ce modèle de Jésus, Jésus n'a pas été embêté par l'ennemi, à part la tentation, parce que l'ennemi ne pouvait pas le toucher, il n'avait rien en lui. Et Seigneur, tu veux que, en tant que chrétien mûr et mature, Seigneur, l'ennemi n'ait rien en nous. Bien sûr, c'est un équilibre que nous faut rechercher permanence, mais que tu nous aides, Seigneur, afin de montrer un modèle, Seigneur, qui donne envie, et qui est un modèle de foi, Seigneur, et d'autorité, Seigneur, que les gens peuvent vraiment visualiser en travers de nous, et puissent l'accepter. Nous te demandons cette grâce pour nous, pour notre Église, pour l'Église de ces derniers temps, dans le nom de Jésus.